la fin hein, du morceau.
Il n'y a pas que la musique. L'émission dans laquelle on parle un peu de musique et beaucoup de cinéma.
Je le méprise, le cinéma.
Écoutez-moi, que ça suffit comme ça. Emmenez votre âme, se calmer ailleurs.
Sur Radio Esperanza. C'est samedi soir, c'est soir de fête à Esperanza. La musique s'étire et va sûrement s'étirer jusqu'au petit matin. Et ici, qu'importe le sexe, le genre, les cheveux longs ou non, on crie et on danse sur le même tempo, la même longueur d'onde. Et on ne parle pas de radio. Ici, à Floref, c'est un havre de paix. En dehors de ces quelques jours de répit, par contre, le monde est fortement bancal et en notre défaveur, oui, nous. Les voix des femmes. Dans le monde artistique, force est de constater que souvent et malheureusement, les femmes doivent encore faire leurs preuves, elles doivent chanter plus fort, tenir front aux vagues sournoises du machisme, des institutions, de la religion, de l'État. Elles doivent se dépasser, relever la tête vite, reprendre leur souffle, replonger, nager encore et toujours à contre-courant. Et puis la possibilité d'une île, une plage où se reposer, le succès ou au moins la reconnaissance. Elles suivent alors des génération de mères, de filles et de femmes artistes qui n'attendent qu'une chose, exister enfin. Ce soir, dans notre émission, il n'y a pas que la musique, l'émission qui traite, je vous rappelle, de cinéma et plus sur Radio Esperanza et dont le nom a changé aujourd'hui même, on vous en dira quelques mots peut-être à la fin. On parle, vous l'avez deviné, de voix de femmes autour de deux documentaires, entre autres, présentés au festival cette année, le documentaire No Land Song, qui évoque la réalité des femmes solistes en Iran, et le documentaire Calypso Rose, The Lioness of the Jungle, un documentaire sur la chanteuse, que dis-je, la reine, la queen de la musique des Antilles, dite musique calypso. Mais d'abord, pour commencer, ma partenaire de choc, Leslie, et moi-même avons voulu vous faire découvrir un nouvel endroit du festival, un petit ciné dans le village des possibles, un ciné constitué d'un conteneur, d'une toile blanche, un câble, quelques petits bancs de bois. Et à nos côtés pour en parler ce soir, Céline et Naïké qui pourront donc développer plus que nous. Bonsoir les filles.
Bonsoir.
Donc ce petit cinéma qu'on a découvert récemment, Céline, peut-être tu peux commencer à nous en dire un petit peu plus sur cette petite pépite cachée au sein du festival.
Oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment une pépite.
Et c'est vraiment bien caché.
Et c'est bien caché. Ouais, bah écoute, c'est une première en fait. C'est à l'intérieur du village associatif. Donc dans le village, il y a une trentaine de collectifs, d'associations, et puis il se trouve que ces associations, elles ont aussi du matériel vidéo pour promouvoir leurs projets, mais aussi pour promouvoir tout l'ensemble de ce qui des causes en fait. Hein. Donc c'est-à-dire que il y a des projets où ce sera voilà, nous sommes tant, nous faisons tel et tel projet, et puis il y en a, c'est les actions par exemple du TTIP. Il y en a, c'est des créations, voilà, il y a donc toutes sortes de choses. Donc c'était vraiment pour mettre en place, pour donner la parole à toutes ces associations qui sont dans ce village. Donc c'est vraiment une première. Hein.
Ouais, et pas de concurrence au cinéma, donc on avait plus l'habitude de traiter dans Il n'y a pas que la musique, parce qu'il ne s'agit pas du tout du même genre de projection. Là, on est vraiment sur des projets d'assaut, alors que les
ouais,
autres
ouais.
Ont beaucoup.
Voilà, donc c'est vraiment pour représenter les associations, là, c'est... Ouais, ouais.
Et d'ailleurs, on peut peut-être parler d'une association en particulier dont on a rencontré un monsieur du CADTM cet
ouais.
après-midi.
Tout à fait.
Le CADTM, donc si je ne m'abuse, le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes. Et là, le documentaire présenté aujourd'hui dans le cadre du petit cinéma et sûrement jusqu'à la fin du festival, programmé
ouais.
jusqu'à
demain aussi. Demain ouais, soir, ouais. Ouais. Ouais, tout à fait.
C'est un documentaire qui traite d'un audit qui présente donc la dette grecque. Je vous laisse juste écouter un petit peu ce qu'il en est, ce qu'il en était donc l'ambiance de ce petit festival cet après-midi.
C'est pas du tout dire c'est du complot ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça que vous pouvez dire. Mais voilà, il y a des gens qui sont au pouvoir et qui privilégient
ça les intéresse pas non plus. Ils se tapent devant une télé pour voir Koh-Lantin, pour voir The Voice, mais ils ne prennent pas une demi-heure de leur temps pour s'informer sur les choses importantes, quoi. On n'a que les gouvernements qu'on mérite finalement.
Cette vidéo d'animation qu'on vient de créer à l'heure actuelle, donc qui est le,
le fruit d'un travail du CADTM et aussi d'une petite équipe, super petite équipe d'animateurs qui s'appelle les Productions du Pavé. En fait, on fait une vidéo d'animation de 15 minutes qui s'appelle « La dette grecque, une tragédie européenne » et donc qui vise à vulgariser ce rapport d'audit afin justement que l'ensemble des citoyens et des citoyennes qui s'intéressent ou même qui ne s'intéressent pas à cette problématique puissent s'approprier les conclusions de ce rapport d'audit et puissent se rendre compte que la crise de la dette publique grecque n'est pas une crise de la dette publique grecque mais avant tout une crise bancaire et que la Grèce n'a pas été sauvée mais que les intérêts privés ont été sauvés.
Les intérêts privés ont été sauvés. Ouh là là. On a entendu beaucoup le mot vulgariser. C'est un mot, j'ai l'impression qu'on entend beaucoup dans cette 15e édition d'Esperanza. Et on en a parlé aussi hier au sujet de la fiction, dis-je bien, Diversion, une production d'Esperanza. Vulgariser, oui, c'est important. Et c'est important de ne pas convaincre les déjà convaincus. Quel genre de... Je sais que c'était la première là, du Petit Ciné aujourd'hui, samedi. Quel genre de public vous accueillez dans cette espèce de grand container?
Ben, en général, c'est un public qui est effectivement déjà un peu averti parce que ceux qui osent franchir les portes du village des possibles sont des gens qui sont un peu curieux, qui se demandent un peu ce qui se passe et qui part du principe qu'il y a d'autres choses à voir que juste à aller à des concerts. Et donc on se rend compte que les gens viennent pour les assos, mais sont curieux et ont envie d'aller pousser la porte de ce conteneur jaune qui est grand, qui est caché, mais qui promet quand même beaucoup de choses très intéressantes. Comme ces petits courts-métrages, ces reportages, ces documentaires qui abordent une quantité de thématiques qui est assez impressionnante, comme la quantité d'associations qui représentent des thématiques très différentes aussi au Village des Possibles.
Et c'est vrai en fait qu'après cette première journée, moi je me rends compte que c'est quand il y a une projection qui est suivie aussi d'un débat. C'est ça que les gens veulent en fait. Ils se posent des questions sur le TTIP, sur la dette grecque, et ils veulent en parler avec des gens qui sont avertis, qui peuvent répondre à leurs questions, parce qu'ils ont des questions simple et c'est bien légitime. Pourquoi être contre le TTIP, voilà, et ils ont quelqu'un en face d'eux qui est contre le TTIP clairement et qui va répondre à leurs questions directes. Voilà, donc c'est plus quelque chose de flou, de vaste. On a quelqu'un en face de nous et on a des actions qui sont projetées via ces petites capsules vidéo et on a en plus quelqu'un qui peut répondre voilà aux questions quoi.
C'était complémentaire aux autres actions parce que le TTIP, c'est vrai que dès qu'on entre à Esperanza, on le voit partout, bon souvent avec le no TTIP devant.
Hein, game over.
Et game over, ouais. Game over TTIP, ça se dit en chanson, ça se dit en mise en scène, il y a des juges, des avocats, des lobbyistes, enfin il y a vraiment beaucoup, ouais. Beaucoup de choses. Est-ce que l'image est quelque chose finalement un peu plus formel, mais comme ça c'était aussi nécessaire pour comprendre tous ces enjeux, parce que oui, c'est pas simple à comprendre, hein, le TTIP.
Oui, c'est pas, il y a aussi le grand cheval de Troie,
oui,
vous avez vu à l'entrée,
exact.
Alors là c'est pour du visuel, ça c'est du visuel, le cheval il fait combien, 4 mètres de haut, un gros cheval gonflable, un cheval de Troie évidemment qui cache ce qui est réellement le TTIP. Ta question?
Ma question, c'est si c'était complémentaire
oui,
la vidéo.
Oui, oui. Et ben notamment le TTIP, je pense que c'est un bon exemple parce que là, en l'occurrence, c'est les capsules sur les actions des
associations.
Oui, des associations et des militants qui s'enchaînent parfois, qui vont bomber les politiques, qui vont faire des actions non violentes, mais qui dénoncent ce traité. Et donc là, les capsules mis bout à bout, on voit aussi qu'il y a des collectifs et des citoyens qui se mobilisent. Donc ça, c'est assez fort et c'est vrai que ça interpelle.
Ça interpelle et ça fait réfléchir. On était devant le devant le cinéma et on a alpagué deux spectatrices, donc ça devait être les premières spectatrices qui ont regardé un petit film et qui en sont ressorties assez songeuses et agréablement surprises, je pense.
Alors en plein milieu du village des possibles, je suis avec deux festivalières qui sortent du petit cinéma du village des possibles. Qu'est-ce que vous y avez vu de beau ?
Alors un teaser sur les Compagnons de la Terre qui sont sur Liège. Et donc ils proposent de revenir à une alimentation beaucoup plus locale où l'acheteur va reprendre en main son alimentation et donc avoir des produits sain et très bon pour la santé et donc proposer un autre système qui permet de reprendre les choses en main. Donc.
Est-ce qu'on se sent bien dans cet endroit ?
C'est un endroit assez sombre, etc. Mais évidemment pour un cinéma c'est ce qu'il faut, mais l'ambiance y est sympa. Là aujourd'hui on a le soleil, donc on entend le monde qui est autour, donc c'est une ambiance sympa. Ouais.
Vous pouvez le décrire un petit peu cet endroit ?
C'est un container jaune avec quelques sièges et un petit écran, tout ce qu'il faut pour un cinéma.
Ça suffit finalement à faire un cinéma.
Oui, c'est ça.
Vous y reviendrez ?
Oui, sûrement pour voir d'autres docus et participer aussi à la découverte.
Oui, c'est clair, ouais. Très sympa.
Ah, donc il a eu du succès en fait, notre container.
Mais oui, vous en doutiez.
Non, mais bon, voilà, c'est le premier jour et je crois que pour être sur Esperanza depuis quelques années, je vois que ça commence à chaque fois par des petites choses, c'est assez roots, hein, mais ça se développe parce que finalement il y a une demande tant des festivaliers que des associations, que du festival, et voilà, donc ça commence par un petit container jaune. Ça n'a pas l'ambition d'être un grand cinéma, puisqu'il y a déjà un cinéma, pas du tout, mais on va peut-être s'organiser mieux, peut-être qu'on va mieux le localiser, on va mettre de l'air conditionné, enfin... Des trucs de fou, quoi.
Je pense que ce qu'il apporte en lui-même, ce petit cinéma, c'est que, à l'image en fait du village des possibles, il apporte une vision concrète des choses qui sont mises en place par les collectifs qui présentent leurs actions. Et donc, au lieu de poser des questions, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité, le courage de poser ces questions aux gens qui proposent ce genre d'action, on va s'isoler dans ce petit espace et on peut voir de ses propres yeux ce qui se passe et ce qui est mis en place par ces gens-là. Et je pense que c'est, à l'image du village, une image concrète et des images sur des mots, en fait.
Et surtout un vecteur d'information, puisque le cinéma permet de faire découvrir, en fait, toutes les différents organismes et collectifs qu'il y a dans le village des possibles. Et ça, c'est très intéressant. Je ne savais pas, par exemple, qu'existait le... Je n'avais pas vu, en passant la première fois dans le village des possibles, qu'existait le CADTM. Et voilà, là, je tombe par hasard grâce à ce petit container.
Ouais. Chacun y a sa place. Mmh. Ouais.
Mais en même temps, tu dis t'isoler. Effectivement, visuellement, on est isolé. En même temps, voilà, nous, on est des gens de radio, l'oreille compte beaucoup. On n'est pas très isolé. L'acoustique, voilà, le monde continue à exister. Le village des valeurs,
tout oui, à fait.
des possibles continuent à bouillonner. Et donc, il y a quand même. J'aime bien cet esprit où le monde continue à tourner, et puis c'est ça aussi, cette énergie, on la ressent même en regardant un trailer.
Tout à fait, c'est ça aussi, on a un vrai cinéma, et nous on est le petit cinéma dans le village des possibles, tout à fait route, c'est tout comme quand on accueille les artistes sur la scène du village des possibles. Voilà, c'est en effet, c'est pas parfait comme les grands concerts, mais ce sont les mêmes artistes, on les a ici en direct, les projections on les a ici toutes proches avec les gens qui viennent débattre et répondre aux questions des gens. Voilà, donc en effet c'est très très ouvert comme lieu.
On disait au début, prêcher les convaincus, c'est un peu moins efficace. Est-ce que vous envisageriez de remettre le couvert dans un festival un petit peu moins engagé qu'Esperanza, dans un lieu peut-être un peu moins attendu ?
Je pense que ça a sa place dans un autre festival. Après, la façon de l'amener sera peut-être différente, parce qu'effectivement, je pense que le Village des Possibles a clairement une renommée et fait partie concrète du festival et à sa place là. Mais je pense que ça peut tout à fait arriver dans un autre festival et on peut proposer d'autres choses à travers le cinéma. Je pense que c'est un réel vecteur et qui doit être exploité autre part, quoi.
Eh bien, qu'est-ce qu'on peut voir de beau demain ?
Demain, eh ben, les petites capsules vidéo, le TTIP Game Over. On a aussi le Kino, en fait, qui est un mouvement ouvert pour tous à Liège, qui propose des projections et puis la création de petits courts-métrages sur Liège. On a aussi la Mare qui nous fait des petits spots anti-pub très très drôles. Le CADTM qui reviendra donc pour la projection sur la thématique de la dette grecque avec le débat. On aura aussi le réseau des consommateurs responsables qui nous parlera d'alternatives à la consommation. Je continue la liste, puisque la liste... Mais ouais, on est beaucoup, alors il y a beaucoup, finalement.
Parce qu'à chaque fois, il faut préciser que c'est court, hein, c'est des formats...
Ouais, c'est des formats, écoute, entre quelques minutes, entre 2-3 minutes et 10-15 minutes. C'est vrai qu'on a aussi les plus longs, 15 minutes, on pourrait citer le docu sur Smokey. Donc Smokey, non rebelle,
artiste burkinabé.
Ouais, burkinabé, bien sûr. Dont le titre est ni rebelle ni révolutionnaire, juste libre. Super intéressant. Bah venez, c'est à 16h30. On a aussi un docu d'une dizaine de minutes sur les parcours de réfugiés, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur cette thématique-là. On a aussi un groupe de réfugiés qui est accueilli sur le festival. Donc voilà, ça parle aux gens. Dans ces vidéos-là, en fait, ce sont des interviews de réfugiés qui parlent ouvertement. Donc, ce que disait Nike aussi, c'était ça. C'est aussi donner la parole et peut-être plus facile des fois de voir en vidéo. C'est vrai que c'est pas facile de dire de poser les questions clairement aux réfugiés. Et puis peut-être au niveau de la langue, c'est difficile. Donc bah là, on comprend bien, c'est traduit, c'est bien expliqué de ce qui est leur parcours. Qu'est-ce qu'on a encore c'est déjà pas mal. Hein,
c'est déjà pas mal, oui.
On a déjà de 12h45 à 18h quand même. Hein.
Du lourd. Céline Naïké, merci beaucoup d'être venue, d'être passée par les studios de Radio Esperanza. Merci pour vos belles voix, car de voix, il va encore en être question, des voix féminines. Donc vous êtes toutes invitées à rester plus longtemps dans cette émission. Si vous n'êtes pas trop pressé, à 9 minutes du début du concert de Manu Chao.
Non, mais on est bien ici, on est bien.
Voilà. Écoutez des voix féminines plutôt. On va se télétransporter de Floref à Téhéran, Iran, pour avec le film No Land Song. Voilà, donc là on part dans des voix iraniennes.
Incroyable.
Incroyable, c'est vraiment, on peut le dire comme ça, un peu avec émotion, c'est notre coup de cœur de cette programmation du cinéma. Moi-même, je l'ai revu un petit peu aujourd'hui et j'en avais encore presque les larmes aux yeux. C'est pas du tout pathétique. Il y a personne qui meurt à la fin. C'est pas ça. C'est juste, un combat réel. Des voix de femmes à faire dresser les poils des bras sur. Et je pense que une voix vaut mille mots. Donc écoutons tout de suite la bande-annonce.
Yeah, the very prominent dominant impression that I got from the film is that it's kind of depicting this motivation for people to go for what they want, and then the whole movie is a journey through this experience to how and it shows how people really try they they have this feeling of enthusiasm and they persist to pursue their desires and what they want. And at the end, he put this all these songs, which are so super emotional and touching for me because it's a kind of traditional way of singing. And then the lyrics of the songs are more about like, this hope for freedom and hope for brighter future. So that was really like the first impression that I got from the film.
Yeah. Does it sound real? Is it really like this in Iran?
Yeah. It seems really realistic because the atmosphere is it's more and more free like during the decades, and I can compare it when I was a kid. So yeah, it changes and time changes many things, and people of course have this desire to go for changes, and for me it's a very real touching close feeling that I can say it's real.
But you are hopeful for the future.
Yeah, of course, we are all, like, you are also hopeful for future. we are all, we are looking forward to brighter, nicer future with more freedom, especially for women to sing and to dance and to do art, because they are really good artists, women artists that we have, and they want to work as well with more freedom and less stress, maybe, yeah.
Alors c'est le monde à l'envers, puisque ce que vous avez entendu, vous vous doutez, ce n'est pas la bande-annonce de Nolan Song, mais bien une réaction juste après la projection. C'était une réaction d'une certaine Sana, qui est elle-même artiste iranienne, et voilà, très très touchée par ce film. Elle dit que ça lui a ça l'a touché loin, et que voilà, ces femmes qui se battent, et qu'on est toujours dans une espèce de négociation, et qu'il faut jamais lâcher, mais que un avenir plus radieux, disons, que se dessine. Voilà, elle doit avoir quelque chose comme 25 ans, artiste vidéaste, et elle le disait à la fin de la projection, que les choses allaient quand même plutôt dans le bon sens, parce qu'il y avait toute cette petite jeunesse pertinente qui en demandait toujours un peu plus aux autorités, un peu plus de flexibilité, et puis que tranquillement, pas vite, ça commençait à aller dans le bon sens. Mais chose promise, chose due, rentrons dans le vif du sujet et écoutons le générique, la bande-annonce de Nolan Song.
Do you like to have concert in Iran?
I would like it if it's possible.
They can turn off the microphone, turn off the light, and drop the concert.
We need a permission.
So in what way
it can be a revolutionary act?
I think that this is the most revolutionary act that in this time in Iran has been carried out.
How you say music?
Music.
Wow.
It's very nice.
Music.
But they told us that it's not
necessary.
It's quand même tentant de pas courber les chines, parce qu'un mec qui décide comme ça, de ne pourrait pas venir.
متاسفانه سارا هم تو داره تهدید میشه از طرف کسی که ما نمیدونیم کیه.
La douce voix des solistes iraniennes, puisque c'est bien de ça dont il est question dans Nolan Song, où pendant 3 ans, une certaine Hayat Najafi, ça c'est la réalisatrice.
Ah, c'est un monsieur.
Ah, c'est un monsieur ?
Oui, c'est le frère.
Ah, oui, d'accord. Voilà. Moi, j'avais l'impression que c'était une ambiance tellement féminine depuis.
Moi aussi, j'ai cru pendant très longtemps. Et en fait, je crois qu'un moment, ça m'a fait tilter il n'y a pas longtemps. Un moment, on le voit, je m'en suis rappelé dans mes souvenirs, on le voit filmer. En fait, c'est le frère de l'héroïne dont tu vas nous expliquer son histoire.
Sarah.
Voilà,
l'héroïne. Mais voilà, Lise, heureusement qu'on a un binôme, tu vois. À deux fois plus de neurones, ça marche. À peu près. Donc ce frère là, Hayat, filme sa sœur Sarah. Sa sœur Sarah qui est compositrice de musique et qui prépare, en fait, qui a cette idée qui nous paraît très à peu près banale, mais qui en Iran est à peu près un petit phénomène, c'est-à-dire faire un spectacle à base de voix féminines. Et en fait, en Iran, ça ne se fait pas du tout. Non. Les femmes doivent soit chanter avec des hommes qui masquent leur voix bien comme il faut, soit ne pas chanter parce que c'est considéré comme trop intime. Donc les femmes ne doivent pas se reproduire en spectacle.
Elles peuvent chanter, mais uniquement devant un public féminin.
Voilà.
Elles ne peuvent pas chanter devant un public mixte parce que selon, on le voit dans le documentaire, selon les pontes de la religion là-bas et donc les dirigeants religieux, les femmes par leur voix, ce qui est incroyable puisque on le voit bien aussi dans l'histoire, c'était avant les femmes qui chantaient, bref, mais les femmes, les autorités religieuses considèrent qu'aujourd'hui, de nos jours, les femmes par leur voix ont une capacité érotique qui est telle que les hommes ne sauraient pas se contenir, messieurs.
Scandaleux.
Voilà. Scandale. Incapable de se contenir devant une belle voix de femme.
Voilà. Donc ces voix de femmes qui sont littéralement censurées. Et là, en fait, tout le film tient autour de la préparation donc de ce spectacle avec des solistes iraniennes, mais pas que, j'y reviendrai un peu après. Alors il y a pas de scoop ou comme ça, c'est-à-dire que on sait dès le début que ce concert aura lieu. Le film commence comme ça, mais on va ensuite revenir 3 ans plus tôt parce que ce concert mettra 3 ans à se mettre en place et à coup d'aller-retour justement avec les autorités, non ça se fera pas, oui d'accord, non, oui, non, oui, non, des espèces de revirements de situation tout le temps qui fatiguent beaucoup les artistes français, car c'est là où je voulais préciser que en fait Sarah Najafi, donc la compositrice, a l'idée de s'allier avec des chanteuses françaises, à savoir Jeanne Chéral et Élise Caron. Il y a aussi une chanteuse tunisienne assez sulfureuse qui s'était fait un peu connaître par une vidéo qui avait beaucoup tourné sur YouTube pendant le printemps arabe. Et donc voilà, donc avec ces trois filles et puis leur groupe, donc il y a quand même quelques garçons qui sont aussi dépités que les autres, parce que les femmes ne peuvent pas chanter, mais la censure va jusqu'au point que le batteur ne peut pas être libre dans ses mouvements, quoi. Il faut
le
pas
batteur masculin.
Batteur masculin, il faut quand même pas trop bouger, pas trop, voilà, évidemment la tenue est particulière, donc c'est un peu comme une rencontre des cultures et forcément ce choc des cultures, mais toujours dans un énorme respect. Mais voilà, on voit que c'est pas simple. Et donc cette situation qui fatigue beaucoup les Français, qui se voient refuser leur visa pour aller à Téhéran, qui finalement sont à Téhéran, mais qui n'ont plus le droit de faire ce concert parce que c'est trop dangereux. Donc là, les autorités essayent d'endormir en proposant l'équivalent de 3000 euros et puis de camoufler ça en workshop pour que ça n'ait pas lieu et puis ils tiennent bon. Bref, on voit que c'est vraiment pas simple et que c'est de la négociation permanente.
C'est du ping-pong administratif et moral, en fait.
C'est ça, ils auront gain de cause à la fin, mais ce qui est fou, et c'est une des phrases assez marquantes, c'est que l'héroïne demande toujours, mais pourquoi je peux pas faire ça? Pourquoi? Et puis
on lui répond
on ne donne pas de raison. Non. Il dit ça, on ne donne pas de raison.
On ne donne pas de raison, on lui répond, c'est comme ça ici, vous le savez, c'est comme ça en Iran, vous le savez très bien comme nous, comment est la situation. Alors en fait, c'est une raison pour nous qui paraît obscure. On la sait tous, la raison. On sait que voilà, l'Iran est un pays magnifique, incroyable, je pense. Je n'y ai jamais été, mais avec tous ce documentaire, je pense que l'Iran doit être un pays incroyable, mais qui a un état si fort et si puissant, si contraignant, que ça en devient... on voit la pression qui pèse sur les épaules de ces jeunes artistes qui veulent faire des choses qui nous paraissent tellement banales, un simple concert, qui nous prendrait peut-être 2-3 semaines, ça leur prend 3 ans.
C'est ça.
Je veux dire, c'est incroyable. Et par le biais de cette mise en place de ce concert, je veux dire, c'est pour ça qu'on a été, je pense, aussi émus. C'est de voir à quel point ils gardent quand même cette énergie incroyable de vouloir changer les choses, quoi.
Puis il y a un truc très anti-chronologique, parce qu'on se dirait, ah, des mœurs comme ça, c'est comme des mœurs tirées d'un ancien temps. C'est-à-dire, oui, c'est complètement réactionnaire. Or, en Iran, donc avant la révolution, avant 1979, les femmes étaient complètement autorisées à chanter oui. seules. Il y a d'ailleurs des magnifiques extraits. Je pense qu'on on vous en avait préparé un, mais on l'a perdu à cause du caractère perse de la chose qui a fait. Ah non, là.
Ah, Thomas l'a. Nous fait des signes de victoire.
Ah, Thomas, heureusement que Thomas assure comme il faut. Merci beaucoup pour la mise en. Donc on en profite et oui, donc voilà, pour illustrer voilà cette liberté, j'allais presque dire débauche, parce que il est presque question de ça dans cet extrait qu'on va vous passer et qu'on peut d'ailleurs retrouver dans le film. C'est vous allez entendre la voix de la chanteuse Delkash qui a fait un film qui s'appelait Farda Rosan Ast. Ça date de 1960. Et Delkash chante sans complexe le vin et l'amour. On l'écoute.
میخوانم نغمه نو نغمه نو به من بشنو مستانه نغمه گرم عاشق و رندم و بیخبرم میدور از لب نکنم هر که نشاط و طرب نکنم شادی را بس نکنم جز گل باد هوس نکنم زیباتر می آید دنیا در نظرم عشق و من پی در پی می سازد از خود بی خبرم رندم و بی خبرم
Voilà, c'était la sulfureuse chanteuse Delkash, qui n'était pas sulfureuse à l'époque parce qu'il était tout bien naturel d'avant la révolution, chanter des chansons telles que là, ce qu'elle dit en persan, c'est je n'arrête pas de boire, je n'abandonne pas la musique. Dans l'ivresse, le monde devient plus beau. On ne pourrait pas la contredire.
Non, ça c'est sûr.
Donc mais... voilà, donc des grandes chanteuses comme ça, d'avant la Révolution, mais même dès 1920, 1930, Camar aussi qui est cité dans le documentaire, qui est vraiment aussi une grande chanteuse. En fait, voilà, c'est des chansons en fait dès les années 20 qui sont composées par des femmes, et maintenant donc dans l'Iran d'aujourd'hui, seuls les hommes peuvent les chanter. Oui, voilà,
c'est incroyable.
Comme cette espèce de Et donc, en fait, ce que prône ce film, c'est un retour en arrière, une fois n'est pas coutume. Mmh. Donc, c'est un peu retourner le problème, et c'est très fin et c'est très bien ficelé dans ce sens-là, parce que voilà, aujourd'hui, ils en sont à un point, et on le voit. Donc, Sarah a beaucoup de conversation avec les autorités. Évidemment, là, c'est filmé en micro caché. Donc, en fait, c'est juste le son qu'on entend. Mais tout le monde la comprend un peu. Mais ils essayent de calmer le genre en disant nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas encore prêts pour ça. Nous n'avons pas encore complètement intégré que la musique n'était pas liée au mal. Mais alors, attention, pas n'importe quelle musique. Là, voix féminine.
Oui,
et ouais. Là, c'est très intéressant pour pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu à la voix parlée. Là, il y a une espèce de réflexion sur la voix féminine assez intense. Je sais pas, Lise, si tu te souviens un petit peu des paroles de l'autorité religieuse.
Oui, cette scène où en fait donc c'est Safia. Donc va donc voir ce grand ponte de l'autorité religieuse pour lui demander pourquoi les femmes n'ont pas le droit de chanter. Donc ce monsieur lui explique donc cet accord à cause du caractère érotique, la femme doit rester à sa place, etc. Et je pense qu'elle lui pose, si mes souvenirs sont bons, elle lui pose la question de savoir, oui alors d'accord, le caractère érotique de la voix féminine, certes, mais alors le caractère érotique de la voix masculine, c'est pas ce que se dénigrer en quelque sorte en tant que mâle, de dire que la voix masculine n'a pas de caractère érotique. Et bon là, il a un peu soufflé, et je pense qu'elle en parle aussi un peu plus loin avec des amis à elle, des hommes, qui voilà aussi sont bluffés par ce genre de discours.
Mais il y va à coup de pourcentage, c'est-à-dire que la voix de la femme est tellement intense que la voix de l'homme, c'est 10% d'intensité par rapport à la voix de la femme, qui est beaucoup trop intense et qui, donc, selon les préceptes religieux, ne devrait pas dépasser une certaine fréquence. Et alors là, Sarah, l'héroïne, lui demande, mais est-ce qu'il y a une limite clairement définie à cette fréquence? Ouais. Peut-être qu'elle pourrait composer des chants juste en deçà de cette fréquence pour enfin être tolérée en concert. Et non, évidemment, cette limite n'est pas définie. Et il y a une autre limite aussi, c'est que quand c'est purement du travail, alors là, c'est toléré. Mais dès que ça se transforme en quelque chose qui donne du plaisir,
oui, c'est ça, c'est
l'art
ça.
Donne du plaisir, donc quelque chose qui donne du plaisir, là, c'est interdit. Parce que, en fait, la voix, le seul pouvoir de la voix de la femme pourrait procurer à l'homme une sorte d'ivresse qui pourrait le faire sortir de son état normal pour ressentir une sorte d'excitation sexuelle.
Voilà. Alors, s'il y a des hommes qui nous écoutent ce soir, je ne sais pas ce qu'ils ressentent, mais en tout cas, voilà, ça ne nous empêchera pas de parler dans tous les cas. Ouais, c'est assez incroyable quand même de pousser la réflexion, comme tu dis, avec des chiffres et des données scientifiques de décibels. Enfin, je veux dire, c'est quand même aller poser des arguments un peu, même complètement bancals sur un sujet qui finalement est complètement loufoque. Je veux dire, même les jeunes, la jeune génération, on le voit dans le documentaire, même les hommes, les femmes, les jeunes, entre eux, dans les maisons, discutent, et on les voit, les jeunes Iraniens, ne comprennent pas, sont eux-mêmes, ils sont habitués, certes, à cette censure quotidienne, tout le temps, mais ils ne comprennent quand même pas pourquoi toujours censurer, toujours mettre des barrières à des choses qui peuvent paraître complètement banales.
Voilà, des barrières qu'on peut quand même un petit peu dégommer, hein, comme on dit chez nous, il y a toujours moyen de moyenner. Et puis d'ailleurs, à la fin du film, c'est quand même un happy end, puisque le concert aura lieu, et finalement, qui donne des leçons à qui? Finalement, ce film peut aussi donner des leçons à nous, dans ce truc de n'importe quel combat, finalement, eh bien, faut pas lâcher. Et c'est un peu ce qu'ont retenu des spectatrices de No Land Song, que juste après la projection, voilà ce qu'elles avaient à nous dire à chaud.
Donc je suis avec deux festivalières, juste à la sortie de la projection de No Land Song, premier mot, première impression à chaud?
Bon, moi, j'ai fort aimé le film. Ça, pour moi, ça montre vraiment le courage de certaines femmes en Iran, que ben, ce n'est pas évident. Je crois qu'il y a vraiment une grande différence entre ce qui se passe en public et ce qui se passe en privé. Et que bah, c'est pas évident de vivre ça tous les jours, surtout si on, bah, si on veut chanter ou si on veut faire de l'art. Mais voilà, moi j'ai fort aimé le film.
Ça me paraît fou que quelque chose aussi anodin que de chanter pose un tel problème dans un pays pareil. Et, mais ça donne beaucoup d'espoir de se dire qu'en insistant, on arrive à ses fins, probablement partout dans le monde. Voilà, que c'est pas tellement différent de chez nous, il faut aussi toujours négocier.
C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on devrait en prendre de la graine et tout négocier quand on n'est pas d'accord?
Oui, surtout quand on n'est pas d'accord. Quand ça va contre ses propres valeurs, je crois que oui, il faut toujours oui, essayer de négocier, de convaincre. Oui, pacifiste, mais voilà, oui.
Il faut se battre.
Merci. Voilà, faut se battre. Donc c'était voilà, c'est un peu comme l'arroseur arrosé. Chacun a des bonnes leçons à apprendre des autres cultures. Et d'ailleurs, c'est quelque chose aussi de très marquant. Donc cette relation entre les chanteuses françaises et puis leur groupe, en tout cas entre les Français et les Iraniens, où chacun apprend beaucoup et chacun aussi essaye de s'adapter. Il y a quelque chose, c'est juste une petite anecdote, mais que j'ai trouvé très, très mignonne, plus par rapport aux musiciens, parce qu'évidemment, il y a des musiciens de musique traditionnelle iranien et puis des batteurs un peu plus fous au niveau français. Et chacun, en fait, se dit, ah ben, je vais m'adapter à l'autre. Ah ben non, oui, les Iraniens disent, oui, les Français jouent sur partition, alors que nous, on est beaucoup plus dans l'impro. Donc c'est plus logique qu'on s'adapte à eux. Et puis les Français à côté de ça disent oui, non, mais les Iraniens ont des codes, ont des choses à ne pas dépasser, donc c'est mieux si ils nous envoient la partition et puis nous on s'adapte à eux. Enfin, il y a quelque chose de mignon comme ça, et puis toujours dans un grand respect. C'est très fin comme oui. Documentaire. Il y a pas de jugement, il y a juste une situation qui est assez critique. Voilà, surtout pour les femmes solistes qui ont des voix magnifiques, parce que là quand on parle de voix, on parle essentiellement de voix chantées, hein, évidemment, et chantées en solo, ce qui est vraiment voilà.
Et des voix exceptionnelles.
Oui, oui, des.
On ne peut que vous encourager à aller voir, voilà. À regarder ce documentaire qui est une claque véritablement, même si le sujet peut vous sembler peut-être un petit peu, je sais pas, éloigné, que sais-je. C'est magnifique et c'est beaucoup plus que un simple documentaire sur l'Iran. C'est un documentaire sur ce qu'on est, ce qu'on ressent par rapport, voilà, à la culture de l'autre.
Voilà. Et si vous avez pas une mini, les yeux un peu mouillés et un peu de chair de poule, je ne comprends plus rien. No Land Song de Hayat Najafi sur la beauté et la nécessité des voix de femmes. Une autre voix de femme qui s'élève. Hein,
oui, une voix cette fois-ci, on va dire une voix cette fois-ci qui vient de l'autre bout du globe, puisqu'elle nous vient des Caraïbes et plus particulièrement des Antilles. Il s'agit de Calypso Rose. Calypso Rose qui est donc une artiste incroyable aussi, une reine, la reine Queen Calypso, Calypso Queen, qui a 77 ans et qui est la reine de la musique calypso, de son vrai nom. Elle s'appelle donc Linda Sandy Lewis. Elle a 77 ans, je l'ai dit. Elle s'est produite tout à l'heure à Esperanza. C'était apparemment incroyable. Tout le monde était bluffé parce que c'est donc une personne assez âgée qui bouge, qui danse, qui a une énergie incroyable. Et donc, un documentaire est diffusé en ce moment à Esperanza sur Calypso. Ce documentaire s'appelle Calypso, The Lioness of the Jungle. C'est donc un documentaire de... Je retrouve, je suis un peu perdue dans mes notes.
Non, je sais pas. Moi, je voulais juste te dire que, allez, parce que voilà, on est en direct, la Radio Esperanza. Quand j'entends en fait de mon autre oreille que Manu Chao a commencé son live, et c'était en fait pour dire que Calypso Rose était produite par Manu Chao. C'est pour ça qu'elle était là d'ailleurs aujourd'hui même. Son nouvel album s'appelle Far From Home, et effectivement, elle est un petit peu loin de Trinidad et Tobago en ce moment, puisqu'elle vit à New York et puisqu'elle est vraiment en tournée un petit peu partout. C'est vraiment une des femmes qui a exporté le calypso, ce style encore assez peu connu finalement.
Hein, oui, 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 oui. Et voilà, la réalisatrice Pascale Obolo. Donc voilà, je suis victorieuse sur ce nom que je n'arrivais pas à retenir malheureusement. Mais tout de suite, sans plus attendre, on vous passe un trailer. Le trailer donc de Calypso, The Lioness of the Jungle.
Oh yeah.
I am a powerful woman. I started in 1955 and I'm still here today. So nothing could stop me. Israel.
Calypso Rose, she's a queen. On stage, she's a beautiful dynamo.
She's my love. I grew up with Calypso Rose music.
Yeah, and she's an icon.
She spread the culture around the world.
Now Rose is the mother of Calypso. I am glad you asked me to do this thing. On Calypso Rose you asked me to sing. Well, the truth about it is plain to see. Calypso Rose really means a lot to we. As a matter of fact, I am very glad that she was born in Tobago and Trinidad. And the icon that she is today is our country made her that way. Rose, to me, is one of the greatest of all time. And now she is considered like Miriam Makeba.
I took the Calypso Queen. I won 4 titles in 1978. And as I say, I thank thee, I bow, and I exported my music.
A man is a man, whether he coughing with consumption. Chinese man or Indian man, any man could give you satisfaction. You said no! Oh my God! He said no!
The stage is my life. It is there that I am really myself. I have never been to bed with a man since I was raped to now, because I'm still afraid. Yes, in a way, Calypso has saved me, because the lyrics I have written, which I cannot speak, I put it in song. I have always had a vision as a child to return to the land of my ancestor. The land feed my dreams and my vision since I was born. I am seeking answers to this vision which are in me and which bring me back to the history of my great-grandmother, Martha Paul, a slave from Guinea, Africa. Grandma, oh, pain in my heart. From the very start, I always think of you. They call me the lioness of the jungle.
The lioness of the jungle, Calypso Rose. Elle s'est battue dans tous les sens de sa vie. Elle s'est battue contre le machisme ambiant de l'époque qui lui interdisait d'être la reine et non pas le roi du calypso. C'est une féministe, on le voit dans le documentaire, convaincue et non pas par on va dire conviction, mais juste par nécessité, parce que elle n'avait juste pas le choix pour exercer son art. C'est une personne très croyante également. Et bref, pour revenir sur le féminisme, c'est un point qui a touché beaucoup de monde à la sortie de la séance cet après-midi. On est allé promener un petit peu notre micro pour recueillir un petit peu les réactions des festivaliers après le documentaire donc sur Calypso.
C'est méga intéressant, moi je connaissais pas du tout Calypso Rose, je connaissais une chanson, et donc voir un peu sa vie, c'est hyper Enfin, c'est interpellant et puis c'est quand même une personnalité féminisme assez intéressante apparemment. Donc je viens de l'apprendre, mais c'est vraiment génial. Enfin voilà, on apprend plein de trucs. Non, c'est hyper motivant et puis son message, si tu veux faire quelque chose dans la vie, fais-le. C'est génial. Voilà, et puis sur la lutte féminisme évidemment, et ça c'est hyper inspirant pour la suite, pour le reste du combat. Mais voilà, après c'est pas la même réalité que nous on vit évidemment. Voilà, mais ça n'empêche, c'est une personnalité inspirante et puis elle transmet une joie incroyable, je trouve. Voilà.
C'est vrai, en fait, on est au contact de tout ce qu'elle a vécu. En fait, elle nous a montré tous les endroits où elle est allée, elle nous a montré la façon dont elle a fonctionné, dont elle a réfléchi pour se construire elle-même et pour devenir la personne qu'elle est. Et elle dégage une force que j'ai hâte de voir sur scène tout à l'heure. Je pense que ça va être génial.
Très intéressant. Et moi, j'avais déjà lu un article sur elle dans Cosette. Mais écoute, je pense que ça commence, nous, à rentrer dans la tête des gens. Mais il faut pas trop se satisfaire d'eux. Faut faire gaffe, tu vois. Et voilà, c'est un bel exemple.
Un bel exemple, cette Calypso Rose. C'est vrai que voilà, tout le documentaire, donc c'est vraiment un documentaire à sa gloire, hein, on peut le dire. Et voilà, une personne assez qui sort des schémas traditionnels de cette société finalement caribéenne, on dit comme ça, caribéenne, ouais, c'est plus joli,
oui.
Ça sonne mieux.
On a décidé, voilà, on refait la française ce soir.
Voilà, en tout cas, une société très paradoxale, et c'est une chercheuse du coin, qui est membre d'un mouvement féministe d'ailleurs, s'appelle Patricia Mohamed, et elle l'explique dans le film. Elle dit, d'un côté, les femmes, on accorde beaucoup d'importance aux femmes, elles sont gardiennes de la culture, du patrimoine, de la famille, donc voilà, très important. Mais d'un autre côté, les femmes sont supposées être silencieuses, calmes, et surtout ne pas avoir de vie publique.
Voilà.
Et si vous êtes une artiste et que vous montez sur scène, tout de suite, vous allez être considérée comme une débauchée sans aucune limite morale. Ce à quoi Calypso Rose répond, moi je suis africaine, quoi, parce qu'on l'a pas dit, mais elle a...
Oui, on l'entend dans le trailer.
Oui.
On l'entend parce qu'elle est sa grand-mère ou son arrière-grand-mère est originaire du Bénin.
Voilà.
Et voilà. De Guinée, pardon. Et elle retourne elle-même. On le voit dans le documentaire. Voilà. Au Bénin, elle va faire un pèlerinage, etc. Elle veut absolument retourner en Afrique, dans cette zone-là, en tout cas.
Voilà, et donc elle a vraiment du sang africain qui coule dans ses veines. Elle dit, je suis africaine, je dois bouger. Sur scène, quand j'entends la pulsation de la basse, ça me rend folle. Elle le dit, ça me rend folle. Du haut de ses 76 ans, et puis c'est comme ça depuis le début, ça me rend folle. Certains pensent que je suis saoule ou défoncée sur scène. En fait, je suis saoule, oui, mais de musique. Je montre que c'est une culture, un art, que c'est naturel, ça fait partie de moi. Et oh que oui, on l'a vu sur scène aujourd'hui, cet après-midi, elle a vraiment ça dans le sang, et c'est vraiment naturel.
Ça fait partie d'elle.
Et ça nous paraît tellement naturel, nous, et en fait, c'est vraiment un acte assez féministe.
Oui.
D'être queen, Calypso queen. Donc queen
à l'époque, ça l'était. À l'époque, en tout cas, elle a ouvert le mouvement, parce qu'elle a 77 ans, on l'a dit. Hein. Elle a ouvert le mouvement donc dans les années, fin des années 50, parce qu'elle s'est imposée, tout simplement, elle ne s'est pas laissée faire. Elle a continué, elle s'est imposée dans les concours de Calypso qui n'étaient normalement ouverts qu'aux hommes. Et voilà, elle bluffait tout le monde. Je veux dire, on le voit dans les rétrospectives, elle bluffait hommes et femmes. Il n'y avait pas moyen de négocier. C'était elle la reine, c'était elle qui bouger comme une dingue, et c'est toujours le cas, et elle a toujours continué à faire entendre sa voix, quelle que soit, peu importe la situation, et elle est toujours restée humble et digne. Et ça, c'est vrai, on le voit aussi à travers le documentaire. C'est pas quelque chose, je pense, de surjoué, parce qu'il lui arrivait des choses très graves, très entre autres un traumatisme à l'âge de 18 ans. Elle s'est fait violer à l'âge de 18 ans, et ça l'a complètement traumatisée, ça l'a complètement changée, et elle en a tiré de ce traumatisme une force vive qu'elle tire aussi de sa foi, parce qu'elle est très croyante. et une force incroyable de voilà, tu as envie de faire ce que tu veux, fais-le parce que la vie est courte. Ouais. La vie est courte.
Puis on a beaucoup parlé de l'aspect bouger. C'est vrai que le calypso, c'est quand même très rythmé. Là, on voyait tout le monde voilà, se déhancher de façon assez langoureuse. Le calypso, c'est aussi dans les paroles, finalement. Je ne sais plus qui dit à un moment du documentaire, les calypsoniens sont les journalistes de la chanson. Ils racontent des histoires vraies. Mais juste en chantant, et c'est loin d'un autre style qu'on retrouve dans les Caraïbes, qui est la soca, où là c'est vraiment très boum boum, frotte-toi sur mon pare-choc et saute sur mon derrière.
Voilà, merci. Voilà.
Mais je retraduis fidèlement les paroles. Là, on est vraiment plus voilà dans des histoires de vie
C'est du quotidien, en fait.
Voilà. Et donc ces paroles, quand Calypso Rose se met à chanter, c'est presque utilisé comme des mantras par les féministes. Et ça, c'est ça où je trouve ça très beau. Et on boucle la boucle un peu avec l'art comme moteur de changement. C'est que, en fait, quoi de mieux que la chanson, les paroles de chanson pour véhiculer une idée, en fait. Et ça aussi, ça, on le voit, les institutionnels ou les politiques n'ont pas toujours le bon langage pour traduire les pensées. Or, quand les artistes le traduisent en chanson, alors là, les gens comprennent tout de suite.
Les gens suivent, et surtout, quoi de mieux que l'art, les paroles, et les paroles de paix et de liberté, et de, comment dire, Calypso Rose n'est jamais, par exemple, entrée en conflit avec les hommes, jamais. Elle les a toujours pris de biais, entre guillemets. Elle a toujours pris son combat féministe de manière biaisée, c'est-à-dire jamais de conflit ouvert avec la gente masculine. Et dans la chanson dont on va terminer par cette chanson, je vais vous lire quelques petites phrases de cette chanson qu'on va diffuser à l'instant pour clore notre émission. Voilà, ça dit ça, Calypso Queen dit ça. Il m'appelait la fille venue de la petite île et maintenant je voyage à travers le monde. Partout où ils vont, ils voient que je suis Calypso Rose, la reine du Calypso.
Calypso Queen, et nous ça tombe bien, puisqu'on est à court de voix. On se retrouve demain soir. Pour la dernière.
Salut, bonne soirée.
That my constitution is strong. Instead of respecting me long reign, they making plot to take down me name. I've been breaking down walls ever since I was small. They could stand up tall and strong like a wrecking ball. I would knock them down. They say that I carry too long, forgetting that my constitution is strong. Instead of respecting me long reign, they making blood to take down my name. Everywhere I reign supreme, the one and only Calypso Queen. No man alive or dead could man come and take the crown off me head. They used to call me small island girl, now I travel the world. Anywhere they go, they know I am Calypso Rose, queen of Calypso. Thank you.
the constitution is strong.